Ok, merci les gars d'être là. On va faire la suite de la sensibilisation à l'ISEP, hein, qui a eu lieu la semaine dernière. Et il y a encore quelques questions que les étudiants nous ont posées et que je n'ai pas pu vous poser pendant la sensi. Voilà, vous êtes opérationnels tous les trois ?
Ouais, oui, c'est bon. Oui.
Donc, merci Thomas, Maxime et Jean-Baptiste hein, d'être là. Il y a quelques petites questions que vous avez entendues la semaine dernière. Là, je vais plutôt poser des questions plutôt de manière générale. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez tous les trois y répondre, chacun votre tour. À votre avis, quel est le plus dur à vivre au quotidien par rapport à votre handicap ?
Et donc, ce qui est le plus dur dans la vie pour le handicap, c'est le regard des autres. Enfin, pour ma part, c'est le regard des autres, pour ma part.
Moi, je dirais que c'est le changement d'humeur. Il y a des semaines, des mois, tout va bien. Puis en fait, on met en place des choses. Et quelques jours plus tard, on n'a plus le moral. Donc, c'est pas facile de rester stable, en fait. Parce que ça fait partie des symptômes de ma maladie. Donc, c'est pas toujours évident.
Moi aussi, je trouve que c'est le regard des autres. Mais qu'en fait, dans ma vie, je suis complètement comme un autre. J'ai mon appart de mort, j'ai ma pote, j'ai ma famille. Mais dès que je sors et que je me confronte au regard des autres, là, ça peut être un frein pour...
Là, on est à la radio, mais dans le coup, Jean-Baptiste, comme tu expliquais la semaine dernière, tu as un handicap invisible.
Oui.
Hein, et puis Thomas et Maxime, votre handicap, il est aussi visible. D'où peut-être justement votre réponse par rapport au regard des autres. Mmh. J'ai une question qui va aller justement dans ce sens, savoir de quelle manière ça va vous affecter, le regard des autres. Donc c'est intéressant aussi, Jean-Baptiste, que tu te poses la question plutôt, comment dire, dans l'inverse. Le fait que les gens ne voient pas ton handicap, est-ce que ça peut t'affecter ? Voilà. Et puis pour les gars, c'est vraiment plutôt le regard sur vous, donc dans le coup sur votre handicap. Comment ça vous affecte ? La question, elle va un peu plus loin. En fait, que ce soit des regards qui soient un peu empathiques ou qui soient plutôt infantilisants, ou même les gens qui évitent de vous regarder.
Ben moi, en fait, quand c'est les adultes qui me regardent, en fait, ils regardent avec insistance, donc des fois c'est très gênant, parce que en fait, pourtant je suis juste en situation de handicap, je ne mange pas les personnes, donc je comprends pas pourquoi ils me regardent avec insistance. Et ce qu'il s'agit des enfants, en fait. Ça me gêne moins parce que ils comprennent pas tout. Donc je suis moins regardant vers les enfants.
Ok.
Moi je dirais que ce qui me dérange, c'est que ça traduit vraiment un truc sociétal. C'est-à-dire que la société n'a pas l'habitude de voir ce genre d'être humain dans la vraie vie. Par exemple, quand on va au bar, quand on va en boîte, on voit très rarement des joueurs handicapés. Et du coup, dès qu'il y en a un, bah évidemment, il capte le regard des gens. Et je pense qu'il faut éduquer la société à ça.
Oui, complètement. Je pense que tu as raison là-dessus. En fait, les personnes en situation de handicap, elles sortent de plus en plus. Si on reprend il y a 30 ans, c'était rare. Et en effet, peut-être que les gens ont besoin de voir de plus en plus, d'avoir une vraie éducation finalement, tout à fait là-dessus. Simplement, bah voilà, on est comme tout à chacun, on fait tout à chacun, et de pas avoir peur de regarder l'autre, parce que voilà, on regarde pas forcément mal une personne qui est en situation de handicap. Hein. Des fois, c'est simplement de regarder parce qu'il y a plein de questions. Voilà, il y a des choses comme ça. Jean-Baptiste, toi.
Moi, je dirais que, en fait, j'ai la chance d'une handicap invisible. Du coup, c'est que ça se voit pas. Alors, dans la rue, j'ai aucun regard. Ou les premières fois que je rencontre une personne et que si je suis en forme, tout se passe bien. C'est les jours où c'est pas évident. Les gens ne comprennent pas mon état de santé parce que il peut y avoir un décalage avec mon apparence. Enfin. Et du coup, il y a une vraie souffrance derrière ça, notamment quand j'ai des symptômes. Et aussi, par exemple, quand il faut déclarer son handicap au travail, à quel moment on le dit, à quel moment on libère la parole. Et là aussi, c'est assez compliqué parce que on n'a pas envie après d'être vu avec un autre regard. On a envie de rester la même personne, même malgré le handicap.
C'est un bon sujet que tu rajoutes là par rapport à la stigmatisation au travail, justement. Je sais qu'il y a eu ça comme question, de savoir comment vous gérez ça. Alors, bon, Thomas, dans le coup, tu nous as dit la dernière fois que tu ne travaillais pas, mais tu fais du bénévolat.
Oui.
Maxime, tu travailles et tu es aussi en recherche d'emploi. Jean-Baptiste, c'est pareil, tu es en recherche d'emploi. Et comment... est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous dites ou pas votre situation de handicap? Par exemple, ce que vous avez comme difficulté, ou plutôt ce qu'est votre handicap?
Alors moi, j'ai eu la chance de déjà travailler ces dernières années avec mon handicap. J'avais fait un service civique dans un café associatif et les gens étaient quand même assez connaissaient bien le handicap en général. Donc j'ai pu ne pas avoir de difficulté à le dire. Et après, j'ai essayé de travailler dans une entreprise de réinsertion. Donc là, ils étaient au courant. Donc pareil, j'ai eu aucune difficulté. Mais je pense que ma stratégie, c'est de le dire dès l'entretien d'embauche pour que ce soit clair dès le départ et qu'il n'y a pas d'autres que les questions soient posées pour connaître mes limites et ce genre de choses.
Ok.
Moi, je mets sur mon CV avec je pense que si on ne met pas, c'est un peu comme mentir à l'employeur. Mais, faut être un peu conscient que quand il y a créé RQTH, ça peut faire peur à l'employeur. Donc,
c'est à double tranchant, en fait.
Ouais. Du coup, tout dépend du type d'handicap. Tout dépend du métier. Il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas trop...
Là, c'est juste une réponse par rapport à votre handicap, ouais. En effet. C'était, tu veux répondre à cette question, Thomas?
Je ne sais pas quoi répondre à cette question.
Tu n'es pas obligé. Juste pour vous dire, Maxime coupera des morceaux. Hein. Donc, il n'y a pas de souci si tu ne veux pas répondre à ça.
Nickel.
Si tu ne sais pas quoi répondre à ça.
Je ne sais pas quoi répondre.
C'était la réponse.
Je pense qu'on a un peu répondu, mais je vais quand même vous la poser. Est-ce que vous vous sentez parfois stigmatisé par rapport à votre handicap?
Moi, je me sens stigmatisé seulement quand je lis des articles de presse et que le mot schizophrénie est mal employé. Et ça touche beaucoup d'articles quand même. On l'associe à des troubles de la personnalité ou à des états psychologiques, psychotiques qui n'ont rien à voir avec la maladie. Du coup, là, je suis un peu triste parce que je me dis qu'il y a une méconnaissance de la maladie. Et donc, les gens, s'ils me rendent compte et qu'ils ont lu des articles, ils peuvent mal comprendre mon problème. Mais sinon, j'ai la chance d'avoir une famille et des amis très tolérants. Donc, on se permet même des fois de faire des blagues, mais tout ça dans un cadre de tolérance. Donc, c'est bienveillant.
Non, moi, ça va. Moi, en général, les gens, ils comprennent... ils comprennent le handicap, donc il n'y a pas... Enfin, ils comprennent mon handicap, donc j'ai pas de problème là-dessus. Après, comme dit Jean-Baptiste, on peut rigoler du handicap, il n'y a pas de problème. Avec certaines limites, pareil. Faut pas que ça dépasse trop non plus.
Oui.
Faut pas que ça soit déplacé.
Exactement.
Et moi, bah si, je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation au Kung-Fu, c'est très sociétal, je me répète un peu, mais bah,
c'est ce que tu disais la semaine dernière, que avec ton déplacement, toi, une fois, tu t'es pris une réflexion là-dessus. Avec ta façon de te déplacer, tu t'es pris une réflexion où les gens pensaient que tu étais bourré.
Oui, c'était quand on rentrait en boîte, les filles pensaient que j'étais sous, alors que ben non, je suis un handicap, donc c'est comme ça. Et le truc qui est drôle, c'est que la journée quand je marche dans la rue, on me regarde comme un handicapé, et la nuit, on me regarde comme un mec bourré.
Ouais,
du coup, pour moi, c'est clairement de la stigmatisation.
Ah bah, tout à fait, oui. Et dans le coup, je vais rebondir là-dessus, Maxime, ça t'est déjà arrivé, les gars, ça sera la même question, ça vous est déjà arrivé d'être refusé d'un lieu parce que vous êtes en situation de handicap?
Ça m'est arrivé une fois, c'était au Boléro, à Angers, et le videur n'était incapable de comprendre.
C'était il y a longtemps?
Non, c'était il y a 2 ans.
Ok.
Il y a 2 ans, et sinon, quand on me refuse d'un établissement, je suis quelqu'un de très têtu. Du coup, je vais pas me faire. Et du coup, on termine par rentrer, par expliquer au corps et au corps pourquoi du comment.
Ok.
Alors moi, une fois, j'étais refusé de rentrer quand je suis allé voir un match de foot. C'est parce qu'en fait, il y a un supporter d'Angers. Il faisait plein de bazar dans les stades. Et en fait, les stadiers ont confondu moi et lui, en fait. Et du coup, il voulait pas me faire rentrer.
D'accord. Et cette personne, elle était en situation de handicap?
Oui, elle était en fauteuil comme moi, mais du coup, j'étais obligé de leur expliquer que j'étais pas cette personne-là. Et du coup, à la fin, ils m'ont laissé rentrer, mais c'était très compliqué ce jour-là.
Et là, c'était pas lié à ton handicap, mais plutôt à la personnalité de la personne quand ils ont confondu.
Ouais.
Au fait que cette personne-là, elle faisait le bazar.
C'est ça.
Ok.
Mais du coup, j'étais obligée d'expliquer que j'étais pas cette personne-là.
Et ça t'est déjà arrivé de pas pouvoir rentrer quelque part. T'as pas été refusé pour autant, mais en matière d'accessibilité, forcément, en fauteuil, c'est des fois plus compliqué.
Bah, si par exemple, au restaurant, des fois, j'ai été refusé. Enfin, j'ai été refusé parce qu'il n'y avait pas d'accessibilité, donc je suis obligé d'en prendre un autre. Donc maintenant, je fais très attention de regarder ce qui est accessible et maintenant, j'appelle avant pour savoir.
Ok.
Pour être sûr.
Oui. Pas te retrouver à pas pouvoir manger dans ce resto.
Ouais.
Jean-Baptiste, je pense que la question ne te concerne pas forcément.
Non,
mais
j'ai jamais eu de problème.
Ok. Il y a une petite question sur les Jeux paralympiques. Du coup, est-ce que vous pensez que les Jeux paralympiques, ils ont suffisamment promu justement l'inclusion des personnes en situation de handicap? Et voilà, si vous aviez des idées, vous, pour améliorer l'inclusion? Donc c'est 2 questions en une. D'abord, on parle des Jeux paralympiques. Est-ce que vous trouvez que les Jeux paralympiques, la communication qui a été faite sur le handicap et les possibilités de faire du sport, etc., de se dépasser, est-ce que vous trouvez que ça a eu un effet favorable, je vais dire, sur le handicap, sur la société, sur tout ça?
Alors moi, je vais pouvoir répondre. On en a entendu beaucoup parler. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de résultats parce qu'il nous avait dit qu'il y aurait plus de possibilités pour les personnes en situation de handicap de faire du sport. Et moi, personnellement, j'en vois pas beaucoup le résultat. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime, mais moi, personnellement, je trouve pas qu'il y a un résultat énorme.
Alors, moi, honnêtement, je suis pas très bon élève. Je sais pas regarder, je suis pas rapide.
Après, c'est pas tant de l'avoir regardé ou pas, c'est plus la médiatisation. Parce que les Jeux Olympiques se sont passés à Paris, du coup les Paralympiques aussi, et la question elle concerne plutôt le fait d'avoir médiatisé les Jeux Paralympiques en France. Mmh. Est-ce que vous trouvez que ça a eu un effet favorable sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société depuis? La question.
Un peu favorable, parce qu'on n'a pas, donc. En aucun cas, ça peut être défavorable. Après, la question, c'est est-ce que c'est
suffisant.
Assez? Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien voir le faire à mon TPR. Du coup, pour moi, c'était bien de parler, de montrer au grand public ça.
Non, pour moi, à mon avis, les gens diront jamais que c'est assez. Les gens, ils en veulent toujours plus, donc ils diront jamais que c'est assez. Mais je pense qu'on en a beaucoup parlé quand même.
Ok. Jean-Baptiste ?
Alors moi, je suis le handicap invisible n'est pas concerné, mais je trouve que c'est toujours génial les Jeux Paralympiques pour voir le handicap autrement. Et en plus, c'était en France, donc on en a pris plein la vue, j'ai trouvé ça. Après, je suis comme Thomas, je me demande si c'est suffisant pour faire progresser sur un court terme comme ça, vraiment la cause. Mais c'est super de voir, les gens se surpasser pour le temps de 2 semaines, quoi.
Et peut-être que même quand on est en situation de handicap... c'est intéressant aussi de voir tous ces sportifs qui ont eux-mêmes un handicap, même si c'est pas le même que nous, et de pouvoir justement voir ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils font, ce qu'ils arrivent à faire. Moi, je vous rejoins un peu là-dessus, hein, voilà, de par mon métier, mais dans le coup, c'est important de le faire. C'est pas suffisant, mais c'est déjà super que ce soit fait, et peut-être que le fait que c'était en France, ça a été fait beaucoup plus que quand c'est pas en France. Moi, j'ai enfin vu les Paralympiques, alors que je trouve qu'on en avait quand même un peu moins parlé sur des éditions qui n'étaient pas en France.
À Londres, apparemment, les Olympiques de Londres étaient très, très médiatisés. Ouais. Les Jeux Paralympiques, c'était la première fois que ton écran était le même pour Olympiques et Paralympiques.
On peut espérer que dans les années à venir, le handicap prendra vraiment une place, en tout cas là par rapport aux Paralympiques et peut-être par rapport justement à la société, comme tu disais tout à l'heure, Maxime, de pouvoir faire évoluer la société. De toute façon, tout est bon. Hein,
on verra bien en 2028.
En tout cas, juste, je trouve qu'on ne s'ennuie pas quand on regarde les Jeux Paralympiques.
Tout à fait.
Je trouve que c'est très intéressant à regarder. C'est aussi intéressant que... les valides.
Pour moi, les personnes en situation de handicap, ils ont plus de mérite que les valides, pour moi.
Toi, tu trouves? Pareil.
Je suis pas d'accord, mais bon. C'est pareil. C'est des sportifs, c'est de haut niveau, même titre.
Ouais. Moi, c'est mon point de vue, après.
On a le droit d'avoir chacun son point de vue, hein, y a pas de souci.
Mais dire que les athlètes handicapés ont plus de mérite, c'est un discours patriarcal.
On va rentrer dans ça, c'est trop bon.
C'est vrai, c'est le discours de la société patriarcat qui voit les joueurs handicapés comme faibles.
En fait, un athlète qui est en situation de handicap, il a autant de valeur qu'une personne valide, qui est un athlète valide, et inversement. Et dans le coup, l'athlète valide, il s'est entraîné tout pareil, ça a été hyper dur pour lui. La seule différence pour toi, Thomas, c'est que vu que la personne elle est en situation de handicap, c'est peut-être pas le mot mérite, c'était peut-être de dire que, en effet, ça a l'air en tout cas plus compliqué et c'est un vrai combat pour lui. Mais je pense que t'as raison, Maxime, là-dessus, faut faire attention aussi, nous, à nos mots, parce qu'en fait, on risque de tomber des fois dans des jugements de valeur ou de choses comme ça, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout, et c'est ce qu'on veut pas.
Après, moi, je suis un peu partagé. Je peux être d'accord avec Thomas et Maxime parce que je suis d'accord, un sportif qui soit valide ou avec un handicap, c'est du moment qu'il soit au top, c'est tout ce qu'on demande. Mais quand on voit les moyens, il peut y avoir une frustration chez les athlètes avec un handicap parce qu'ils ont moins de moyens. Du coup, ils se disent on est freiné par quelque chose. Le sport, il nous manque quelque chose pour vraiment être performant. Donc, des fois, je me dis qu'ils doivent dégager encore plus d'énergie pour être au top.
Pourquoi
C'est un point de vue, c'est une question que je me pose plus qu'un point de vue, en fait.
Et t'entends quoi par moyen?
Parce que je sais qu'il y a moins de moyens d'équipement, ce genre de choses.
Par exemple, moi je suis entraîneur de hockey sur galop et je sais que l'équipe de France qui est olympique n'a aucun moyen. Tous les athlètes, soit amateurs, sont pas payés, donc ça dépend des sports.
Oui, voilà, ça dépend des sports. Mais c'était plutôt une question, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, carrément.
Je change de sujet si ça vous va. On n'aura pas la réponse à cette question, en tout cas, mais c'est intéressant
merci,
de savoir.
Merci de la réponse.
C'est intéressant de savoir qu'on n'est pas tous d'accord non plus sur les choses. Hein. C'est pas très grave, ça. C'est aussi ça la liberté, justement. J'ai une petite question sur votre catégorie de handicap, en fait. Vous avez été reconnus en situation de handicap, tous les trois. Et la question, en gros, c'est de savoir dans quelle catégorie de handicap vous êtes reconnus. Quelles sont les démarches administratives? Alors, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais plutôt de savoir si c'est quelque chose de compliqué ou pas de se faire reconnaître en situation de handicap. Et puis, si on doit renouveler la reconnaissance. Alors, tous les trois, vous allez avoir une réponse différente, je pense.
Alors, en fait, moi, je vais commencer.
Vas-y.
Je suis à 80%. On a ce qu'on appelle une carte d'invalidité. Et en fait, moi, sur ma carte, il y a marqué 80% de handicap.
Ok.
Et pour renouveler mes droits, en fait, on passe par la maison départementale de l'autonomie. C'est là où on a tous nos droits qui sont remis à jour quand ils sont plus à jour. Mais ça prend énormément de temps, ça peut prendre 6 mois à 1 an.
Et à quelle fréquence, par exemple, toi, là je peux te donner un exemple, parce que ton fauteuil, c'est quelque chose que tu redemandes tous les combien de temps?
Alors avant c'était tous les 5 ans, maintenant c'est passé à tous les 10 ans.
Ok, ça veut dire que du coup, si par exemple demain ça faisait 10 ans, il aurait fallu que tu t'y prennes 6 mois avant? À peu près pour avoir ton dossier qui est fait au bon moment.
Exactement.
Ok.
Je peux pas, par exemple, si je veux un fauteuil, par exemple, je peux pas l'avoir demain. Je suis obligé d'anticiper. Quand on est en situation de handicap, il y a beaucoup d'anticipation à avoir.
Merci Thomas. Maxime.
Oui.
Je répète la question. T'es reconnu dans quelle catégorie de handicap et les démarches, est-ce qu'elles ont été compliquées ou est-ce qu'elles sont compliquées?
Oui, très compliqué. Quelle catégorie, c'est-à-dire?
Et bien là, Thomas, par exemple, alors moi, j'ai pas vu que c'est pas une question à nous, hein, c'est une question des étudiants de l'ISEP.
Oui.
Moi, de ce que je comprends, c'est plutôt de savoir un peu, voilà, Thomas, il disait, je suis reconnu à 80%. Toi, est-ce que tu sais à peu près?
Ouais, moi, je suis en dessous de 80.
Ok.
On n'a pas compris la raison, mais bon. Et j'avais fait un dossier il y a 2 ans, et mon dossier était bloqué pendant 1 an.
Ouf.
Parce qu'il refusait le certificat médical.
D'accord.
Il a fallu que je refasse. Les MDA m'ont dit on n'est pas sûr que vous soyez handicapé, donc on va vous voir en entretien. Ils m'ont vu, ils m'ont dit ah, ben on comprend pas pourquoi on a refusé votre certificat.
En fait, c'est des dossiers qui se passent en papier et du coup, ou en ordinateur, enfin ouais. Numérique. Et donc, en fait, les personnes qui reçoivent ces dossiers ne vous connaissent pas. Mmh. Et là, dans le coup, elles ont eu besoin de te voir pour vérifier qu'il n'y avait pas d'usurpation ou de choses
ouais,
comme ça.
Pour éviter les fraudes. Okay. Et en vrai, MDA de moins en moins de moyens. Donc, il essaie de... S'il y a un gros d'eux qui peuvent sauter, bah, ils vont faire sauter des droits.
Et ça dépend vraiment de la difficulté de chacun. Et en effet, peut-être que toi, vu que tu es un peu plus autonome sur certaines choses, c'est peut-être aussi pour ça que tu n'es pas reconnu à 80%, là où tu aurais pu en avoir besoin, par contre.
Oui, j'aurais pu. Mais...
Parce que là, donc juste pour faire une parenthèse, la reconnaissance du taux d'invalidité, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça vous fait aussi des droits, notamment en matière d'accompagnement, en matière de financement pour certaines choses.
Ouais, c'est ça.
Ok. Jean-Baptiste ?
Moi, j'ai une RQTH que je dois renouveler aussi, je sais plus c'est quoi. On reçoit des courriers qui nous préviennent. Je touche la H aussi. L'allocation à adulte handicapé, donc c'est pareil, il faut voir ça avec la MDA, la maison départementale de l'autonomie. Puis j'ai une reconnaissance, je crois, d'invalidité. Mais je fais ça bien, c'est juste que je ne sais plus à quel pourcent même je suis reconnu handicapé, mais
c'est pas grave.
Mais ça fait depuis 8 ans que j'ai cette reconnaissance.
D'accord, ok. J'ai deux petites questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être savoir un petit peu à quel moment vous avez décidé de faire ce que vous faites aujourd'hui. Alors, c'est une question qui est hyper vague. Je vais la rapprocher d'une autre. Est-ce que c'est votre souhait, par exemple, d'avoir rejoint APF France Handicap? Ou est-ce que c'est une demande d'un proche ou... voilà. Et je pense que la première question, c'était aussi bah, voilà, le bénévolat que vous faites ou le travail que vous faites ou... À quel moment ça vous est venu? Est-ce que ça vient vraiment de vous, quoi?
Alors, moi, je vais prendre la parole. La première fois qu'on m'a parlé de APF France Handicap, je voulais pas y aller. C'est mon ancien établissement qui m'en a parlé.
Ok.
Je voulais pas rentrer dans APF France Handicap. Mais depuis 13 ans que j'y suis, je ne veux plus en sortir. Parce que comme maintenant je connais les personnes qui sont dans l'assaut et comme mon bénévolat me plaît, ce que je fais au sein de l'association, bah, en fait j'ai plus envie de partir.
C'était peut-être une appréhension que tu avais au début et maintenant tu aimes bien?
Ouais, c'est ça.
Okay.
En fait, moi, quand je connais pas les personnes au départ, j'ai du mal à venir.
Et toi, Maxime?
Ben, moi, quand le hockey, c'était vraiment naturel. C'était un sport de famille. C'était vraiment... Ça coulait de source.
Ok, t'as toujours un peu voulu faire
j'ai
ça.
J'ai toujours béni le hockey. Voilà. Et la PF, en fait, j'arrivais à Angers. Et mes potes étaient partis en Belgique à Paris et donc je savais pas trop quoi faire, je connaissais un peu personne et on m'a parlé de la PF et voilà, je suis rentré là-dedans et j'aime bien.
Moi, c'est en cherchant sur internet, je suis tombé sur APF parce que je voulais m'engager bénévolement dans une structure en lien avec le handicap. Ça peut relier aussi à mon projet professionnel qui est la paire aidance. Donc je me dis que ça peut. La paire aidance, en fait, c'est l'entraide entre personnes touchées par le même handicap. Donc on devient professionnel et on aide psychologiquement, on suit d'autres personnes qui ont le même problème que nous. Et en fait, je cherchais donc quelque chose pour appuyer ça et du coup, j'ai pu découvrir APF et faire moi déjà deux témoignages. Là, c'est un autre témoignage sur la radio, mais tout ça me permet de prendre du recul et finalement de découvrir aussi d'autres handicaps. Du coup, ça m'ouvre beaucoup et j'aime beaucoup.
C'est chouette. Merci tous les trois d'avoir pris ce temps en plus de la sensibilisation. Voilà, Thomas, Jean-Baptiste et Maxime, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.